Bonjour, vous écoutez The Journal.
Avec moi Mathilde au micro,
moi Chloé et Anna la technique.
Nous sommes de retour pour une nouvelle édition de The Journal.
Tenez-vous bien, The Journal c'est dans un instant.
Aujourd'hui au programme,
les nouveaux élèves du LFB.
Interview de Monsieur Vergriette, maire de Dunkerque.
Des élèves de l'atelier écologie nous parlent de la conférence sur le développement durable à Madrid.
Et finalement, Paulette, une femme de 97 ans, fait passer un message à notre génération.
Au début de l'année, le lycée a accueilli plusieurs nouveaux élèves.
Nous avons rencontré plusieurs nouveaux terminales.
Et nous avons pu leur poser quelques questions sur leur arrivée au lycée.
Écoutons-les.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle fut ta première impression au sein du LFB ?
Déjà, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça très très grand, il y a beaucoup de monde. Les bâtiments sont très jolis, les extérieurs aussi, c'est vert, c'est très sympa. Et voilà.
Qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce qui te plaît pas au LFB ?
J'aime beaucoup l'équipe pédagogique, surtout les professeurs qui ont des très beaux diplômes. Voilà. J'aime bien aussi le CDI qui est très beau et les gens sont gentils. J'aime bien aussi les personnes qui y sont, surtout les anciennes personnes qui savent bien aiguiller. Et ce qui me plaît pas, pour l'instant, j'ai pas trop trouvé de défauts au LFB.
Et à Barcelone ?
Alors moi, je viens d'une plus petite ville que ça, et c'est vrai que c'est très impressionnant d'avoir le tram, beaucoup de bus, etc. Nous, on n'attendait pas au passage piéton, bah là, on est obligé. C'est vrai que c'est très impressionnant, mais l'architecture est très jolie et ça change de la France beaucoup en termes de population.
Penses-tu rester à Barcelone après et pourquoi ?
Alors non, je reste pas à Barcelone parce que je vais faire mes études. Je retourne en France. Moi, mes parents, ils vont rester pour minimum 4 ans et je reviendrai les voir aux vacances.
Et avez-vous réussi à vous entourer ici ?
Oui, j'ai réussi à m'entourer de pas mal de personnes, des nouvelles comme des anciennes et c'est très sympa.
Et préfériez-vous votre ancienne école ?
Or c'est très différent, mais franchement je me sens mieux intégré et mieux à ma place au LFB. Et je préfère parce que ça parle plus de langue, on sent qu'il y a plus de connaissances ici que dans mon ancienne école.
Merci. Bonjour.
Bonjour, alors je m'appelle Chloé, du coup je suis au LFB depuis cette année.
Quelle fut ta première impression au sein du LFB ?
Tout d'abord je me suis dit que c'était très moderne et aussi qu'il y avait plein de verdure et que ça c'était cool.
Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît pas au LFB ?
L'espace vert, vraiment, j'aime beaucoup. J'espère qu'ils feront ça dans d'autres lycées parce que vraiment, c'est trop bien. Le CDI, il y a une terrasse et ça, c'est cool. Ouais, c'est stylé, quoi. Après, ce que j'aime pas trop au LFB, c'est que les horaires, quand même, c'est un peu plus tard. Voilà, donc 18h40, c'est hyper tard. Dans mon ancien lycée, le max, c'était 17h30. Et vu que j'ai beaucoup de trajets, ça fait que je rentre presque à 20h chez moi quand je finis à 18h40, donc ça c'est pas forcément oufissime.
Et qu'est-ce qui te plaît et te plaît pas à Barcelone ?
Ce que j'aime pas beaucoup à propos de Barcelone, c'est qu'en fait je suis loin de ma famille, donc ça c'est pas forcément cool. Mais j'aime beaucoup l'architecture et le monde aussi, qui je trouve sont beaucoup plus sympathiques de faciès et dans leur façon de parler qu'en France.
Penses-tu que tu vas rester à Barcelone après la terminale ?
Alors je sais pas trop, donc j'ai un peu deux possibilités, soit je retourne en France pour mes études, ou soit je reste à Barcelone pour apprendre la langue, me mettre des sous de côté et ensuite refaire des études donc en France, je pense.
Avez-vous réussi à vous entourer ici ?
Je pense que oui, je pense que je me suis fait des amis après. Je sais pas, à eux de me dire.
Est-ce que tu préférais ton ancien lycée ?
Dans certains points, oui, dans d'autres, non. Mon ancien lycée, il était public, donc pas cher. Alors que ici, c'est quand même un peu cher, quand même. Mais j'ai l'impression que côté enseignement des langues dans ce lycée, c'est vraiment mieux. Et peut-être accompagnement des élèves jusqu'aux études, j'ai l'impression que c'est mieux. Bon, après, on n'est qu'en début d'année, donc je peux pas dire, mais voilà.
Suck it too hard on your lollipop, hey, love's gonna get you down. your life until love is found. 'Cause love's gonna get you down. Take a look at the girl next door. She's a player and a downright bore. Jesus loves her, she wants more.
Vous venez d'écouter Lollipop de Mika.
Au mois de novembre, une délégation d'élèves de l'atelier écologie ont eu la chance d'assister à une conférence à Madrid.
Ils ont écouté des intervenants espagnols et français qui ont discuté des projets de ville durable.
J'ai eu la chance de participer et j'ai pu interviewer un des intervenants, Monsieur Vergriette, maire de Dunkerque.
Place à Monsieur Vergriette.
Bonjour, je m'appelle Patrice Vergriette, je suis maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque, qui est une ville au nord de la France de 200 000 habitants. Et puis je suis également président de France Ville Durable, qui est une association qui regroupe en fait tous ceux qui fabriquent la ville aujourd'hui, donc la ville durable, à la fois l'État et ses agences, les collectivités locales bien entendu, les entreprises et puis les experts de la ville.
Et pourriez-vous nous définir ce qu'est une ville durable ?
La ville durable, pour moi et pour France Ville Durable, ça repose d'abord sur quatre grandes notions centrales. La première, c'est la sobriété. On le voit en ce moment avec les problématiques de la guerre en Ukraine et les enjeux autour de l'énergie. Mais la crise climatique, en fait, va faire que ce qu'on vit actuellement est juste un avant-goût de ce qu'on va vivre dans les années qui viennent pour s'adapter à l'enjeu climatique. Demain, il faudra être sobre non seulement sur l'énergie, mais aussi sur le foncier, la consommation de terrain, de sol, l'eau, évidemment, les déchets. Donc cette sobriété, ça veut dire que c'est la première notion de la ville durable. La deuxième, c'est la résilience. On connaît depuis la crise sanitaire, mais c'est cette capacité qu'on a à s'adapter aux crises. Parce que le changement climatique, il est déjà là. Vous le vivez déjà. Et donc, il faudra quand même adapter la ville. Troisième notion pour une ville durable, c'est l'inclusion. D'abord parce que les plus modestes aujourd'hui sont les victimes du changement climatique, alors qu'ils ne sont pas forcément les responsables. Et donc, il y a une question de justice sociale dans la ville durable. C'est aussi l'inclusion démocratique. Parce que si vous voulez faire une ville durable, il faut embarquer la population, qu'elle partage cette vision de l'avenir de l'humanité. Et enfin, la dernière notion d'une ville durable, pour moi, c'est la créativité, parce qu'il faudra beaucoup d'intelligence pour essayer de nous adapter à tout ça.
Quels sont les changements que vous avez déjà mis en place pour rendre Dunkerque plus durable ?
Alors Dunkerque, c'est un peu le laboratoire de la ville durable en France. C'est peut-être pour ça que je suis président de France Ville Durable. Alors à la fois, on a fait un travail sur l'économie. Notamment, vous savez que Dunkerque est un grand bassin industriel et on a accompagné nos industriels à décarboner leur processus de production. Donc ArcelorMittal, par exemple, c'est le premier émetteur de CO2 industriel de France. Il est à Dunkerque et il a engagé une très grande transformation de son process de production de l'acier. Mais ça, on l'a avec tous les industriels du territoire. On a engagé aussi de nouveaux sites de production énergétique. Il y a un champ éolien offshore qui doit sortir de terre dans les années qui viennent au large de Dunkerque. Donc c'est toute une dimension sur l'économie d'abord qu'on a fait. Après, il y a les politiques publiques. Les politiques publiques, on a voulu encourager la population à avoir des comportements vertueux pour le climat. On a fait par exemple le transport public gratuit à Dunkerque. Et on a doublé la fréquentation du bus depuis 4 ans grâce à cette mesure. On est en train de faire un plan vélo actuellement et on développe l'usage du vélo. On travaille sur les déchets, on travaille sur l'eau. Par exemple, on donne des subventions pour ceux qui récupèrent l'eau de pluie, pour arroser le jardin, pour arroser les plantes. Voilà. Donc tout ce travail, c'est la transformation de nos politiques publiques, des politiques de la communauté urbaine et des villes. Et puis il y a une dimension plus éducation populaire, c'est-à-dire que tout ça ne peut pas se faire si la population, elle n'adhère pas à tout ça. Et donc, on a créé à Dunkerque ce qu'on appelle la Halle au Sud, qui est une grande structure d'éducation populaire à ce qu'est la ville durable. Cet été, sur la plage de Dunkerque, par exemple, la Halle au Sucre avait mis en place le village du futur. Et tous les gens qui venaient à la plage, ils pouvaient découvrir comment on allait fabriquer l'énergie demain, comment on allait devoir consommer l'eau demain, c'est-à-dire moins consommer l'eau, comment demain on allait mieux isoler son logement, comment on allait gérer ses déchets. Et tout ça, c'est très important de pouvoir donner à la population la compréhension de ce qui est en train de se passer et comment il faudra surtout changer son mode de vie pour le climat, parce que le monde qu'on connaît aujourd'hui ne sera vraiment pas le monde de demain.
Et quels sont les enjeux de mettre en place des solutions à long terme ?
Les enjeux, c'est de réussir à limiter le dérèglement climatique. Vous savez que c'est déjà parti. Le GIEC alerte régulièrement la population mondiale sur ce qui risque d'arriver à notre planète si on n'arrive pas à ça. Il faut comprendre juste une chose, et c'est ça l'enjeu, je pense, de la ville durable. c'est qu'on vit sur une planète aux ressources limitées, avec une capacité d'adaptation limitée. Et si nous voulons un avenir à l'espèce humaine, parce que c'est ça l'enjeu, il faudra qu'on arrive à avoir un développement qui reste dans les limites de la planète. Et donc l'enjeu finalement, c'est juste l'existence, la survie de l'espèce humaine. C'est ça dont on est en train de parler. C'est la biodiversité. C'est la capacité qu'on aura encore, et que vous, parce que vous êtes plus jeune que moi, à vivre dans une planète où il sera encore agréable de vivre et vous n'allez pas subir des conséquences qui seront irrémédiables. L'enjeu, il est énorme en fait, en réalité. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'en fait, il faut s'adapter. On connaît presque les solutions qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'il faut s'adapter très vite. Il faut qu'en 2050, on ait des villes climatiquement neutres. C'est très difficile à faire. Quand on regarde ce qu'il faut faire, ce qu'il faut réussir à transformer d'ici 2050 pour limiter le dérèglement climatique, c'est considérable, considérable. Et ça, ça doit se faire à l'intérieur d'une génération. Et ce qui est peut-être plus difficile que ce qui s'est passé avant, pour la révolution industrielle, pour tout ce qui s'est passé avant, c'est qu'on doit faire dans un temps très court des changements qui sont radicaux. Et ça, c'est pas facile à faire.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au retour, les élèves ont voulu donner leur avis.
On a pu leur poser quelques questions sur ce qu'ils ont retenu.
Les voici.
Dans le cadre de la conférence de Madrid, nous avons vu plusieurs maires et également des spécialistes dans leur domaine, comme par exemple des architectes. Nous avons vu que plusieurs projets étaient mis en place pour faire face au réchauffement climatique et pour rendre les villes plus durables. Un m'a notamment marqué qui était par exemple d'acheter les littoraux, enfin des terrains au niveau des littoraux pour les préserver, les renaturaliser et aussi également pour faire face à l'érosion.
Et quelles sont les idées que tu as trouvées pour des projets qu'on pourrait incorporer dans le lycée ou dans la ville de Barcelone?
Ils ont parlé de beaucoup de projets qui étaient mis en place, mais ces projets ne peuvent pas être mis en place si les populations ne sont pas sensibilisées et s'ils ne sont pas en accord et favorables face au changement, puisque le changement, comme ils l'ont mentionné à plusieurs fois, est presque dépendant de la population. Et donc, c'est l'une des choses motrices pour pouvoir mettre en place ces projets.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'as-tu appris à la conférence de Madrid ?
À la conférence de Madrid, j'ai appris qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de se former, de se créer pour pouvoir aider à combattre le réchauffement climatique au sein des villes. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses qui étaient mises en place.
Quelles sont les idées que tu as trouvées pour des projets qui pourraient être incorporés au sein du lycée ou au sein de la ville en général ?
Il y avait beaucoup de projets de renaturalisation des espaces pour créer plus de parcs et donc des parcs qui soient plus illuminés avec des sources qui n'impactent pas aussi très fortement les émissions de CO2, créer des espaces plus naturels dans une ville.
Merci.
Écoutez Music for a Sushi Restaurant de Harry Styles.
Place maintenant à Paulette, ma grande tante qui a exactement 80 ans de plus que les terminales de cette année.
Et oui, Chloé a eu la chance de pouvoir l'interviewer et d'écouter en exclusivité toutes ses histoires.
Cette interview nous a permis d'ouvrir une fenêtre vers le passé.
Écoutons ses histoires.
Bonjour Paulette.
Bonjour, belle petite fille.
Vous pouvez vous présenter un peu, quel âge vous avez, ou d'où vous venez, tout ça?
J'étais faite d'une mère et d'un père que j'ai connu bien longtemps après parce que j'avais déjà quelques années que j'étais connue. J'étais connue, connue. Mon père s'appelait Maurice. Ma maman s'appelait Marguerite, comme la fleur. Elle était née en 1901. d'un père bourrelier et d'une femme qui faisait beaucoup d'enfants. Quand on a eu 10, 5 garçons, 5 filles, égales, 500 grammes chacun.
Et vous, vous êtes née en quelle année?
Oh là! Si je réfléchis bien, c'était 1925.
Donc ça vous fait 97 ans. C'est un bel âge.
Et pas toutes mes dents. Ou sauf par prêt. M'en a prêté un atelier. Le haut et le bas.
Mathilde et moi, qui font cette émission, nous avons toutes les deux 17 ans. Est-ce que vous vous rappelez un peu de votre vie à 17 ans?
J'allais prendre la sténo et la dactylo.
Pour travailler?
Ah ben oui, pas pour me reposer. Il a fallu que je travaille.
Et donc à 17 ans, vous travailliez déjà?
Oh non, 19 ans, on va dire.
Et vous étiez toujours à l'école ou pas?
Oh, j'étais plus à l'école, 19 ans.
Non, à quel âge avez-vous arrêté l'école?
À 17.
À 17.
J'allais dans une école de sténodactylo comptabilité. Pigier. Je vais faire de la réclame.
Le mode de vie a beaucoup changé entre-temps. Est-ce que dans les années 40, les femmes pouvaient porter des pantalons?
Oh ben, fallait qu'elles prennent des culottes. Elles ne prenaient pas de pantalons. Ça, je ne me souviens pas.
Je ne me souviens pas.
Mais la culotte était un peu obligatoire, hein, parce que ça serait pour la beauté, mais ça serait pour l'odeur.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos histoires d'amour de jeune fille?
Là, fallait pas courir le garçon. Fallait mieux que ce soit lui qui nous court après. Parce que, attention, il n'y avait pas la pilule.
C'est
et
vrai.
Quand on voulait jouer, souvent ça rapportait.
Et vous avez eu votre premier enfant à quel âge?
Oh, tout de suite. Après, j'en ai plus. Mais tout de suite, hein. Quand j'ai touché à ça, à l'amour, 18 ans.
18 ans. Donc très jeune, donc un an de plus que nous. Quoi. Votre mari, vous en avez eu qu'un seul ou plusieurs?
Oh, j'en ai eu plusieurs. Il ne faut pas jamais en avoir qu'un seul. Il faut essayer un peu tout. Des blonds, des bruns, des roux.
Et vous les avez rencontrés comment?
Oh, ben ça, c'est en faisant le trottoir. C'est pourtant la vérité.
Oui, c'est en prenant, oui.
Chez un boulanger. Un pâtissier.
Votre premier mari? Et vous en avez eu combien?
Je ne peux plus les compter, je ne me souviens plus.
Mais comment vous avez rencontré votre deuxième mari ou votre troisième mari?
Je ne peux pas le dire, c'était soir de réveillon.
Le deuxième?
Oui.
Et le troisième?
Au cimetière.
Vous avez rencontré votre troisième mari au cimetière? Sur la tombe de votre deuxième mari?
Voilà, c'est comme ça que ça se trouve. On n'était pas virulents.
Et donc vous avez vécu une vie bien remplie, vous
avez
fait beaucoup de voyages, beaucoup de travail, beaucoup d'amour.
Alors là, je reprends sur l'amour. Il y avait beaucoup de changements, mais pas beaucoup d'amour. C'est réciproque, hein?
Oui.
Les hommes, ils n'ont pas beaucoup d'essence dans le moteur.
C'est vrai. Vous avez travaillé toutes vos vies comme sténographe?
Oh oui, à peu près. À l'air liquide, soufflet. Fallait travailler pour éclairer le monde. L'air liquide éclaire le monde, hein.
Un conseil pour des jeunes filles et des jeunes garçons de 17 ans aujourd'hui, comment bien réussir sa vie?
Maintenant que vous avez la pilule, vous pouvez faire des essais plus que nous. Y aller à pas de loup.
Y aller à pas de loup. Merci beaucoup. On espère à bientôt, Paulette.
Oh oui, je vous poserai des questions.
Au revoir. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol und alles rief, er kann man rock me, aber er ist Amadeus. C'était Rock Me Amadeus de Falco.
C'est la fin de cette émission.
Oh non !
On se retrouve en 2023 pour de nouveaux reportages.
Mais nous allons pas vous nous quitter comme ça, puisque la semaine prochaine, nous vous souhaiterons un joyeux Noël dans une émission exclusive.
D'ici là, abonnez-vous, laissez des commentaires et écoutez-nous sur notre site
www.radiolfv.net.
On se laisse avec Burning Pile du groupe Mother Mother.
Ciao tout le monde.
Peace.